pas, il était presque charmant. Mais il a fallu qu'il te tape. Même non pas une année passée, et déjà, il te tape. Tu l'avais trouvé si doux, si touchant, et maintenant, il te tape.
Les violences faites aux femmes, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Pour nous parler de ce sujet délicat, j'ai invité Guy Fournier, qui est président de la section Tourcoing de la Ligue des droits de l'homme, et Stéphanie Rameau, qui est militante du comité Ni pute ni soumise de Tourcoing et environ. Bonjour.
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 Donc, ce sujet reste malheureusement toujours d'actualité.
Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, on a encore beaucoup de violences, des violences conjugales notamment. Il faut savoir que quand même une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou son ex-compagnon. Qu'il y a à l'heure actuelle encore 50 000 viols par an, dont 50% des victimes ont moins de 18 ans. Donc, il est important de faire de la prévention. Et puis, oui, c'est toujours d'actualité, avec encore une certaine omerta. Enfin, le mot est peut-être fort, mais je pense que dans certains quartiers, c'est une omerta. Et des femmes qui n'osent pas porter plainte. 8% des femmes qui subissent des violences conjugales ne portent pas plainte contre... Enfin, il n'y a que 8% de femmes qui portent plainte contre leur compagnon.
Alors, ces chiffres, donc, de déclaration de plainte, est-ce que d'une année sur l'autre, ils évoluent? Est-ce que les femmes portent davantage plainte qu'avant? Comment vous ressentez la situation?
Alors, la seule donnée qu'on ait de positif, en fait, c'est que les jeunes femmes, souvent, parlent plus facilement à leur entourage avec toutes les campagnes de sensibilisation qu'il y a eu. Les jeunes filles osent plus facilement parler à leur entourage des violences qu'elles subissent ou des viols qu'elles ont pu subir aussi. Mais porter plainte reste encore un acte très difficile.
Stéphanie Rameau, ces campagnes dont vous parlez, on les retrouve où ?
Alors, il y a des campagnes nationales qui se font. On a aussi on a notre association qui est en pleine campagne « Je t'aime, je t'abîme » avec entre le A et le I de « Aimer le B ». Et là, en l'occurrence, avec la Ligue des droits de l'homme hein, qui a fait... alors, est-ce qu'on peut dire magnifique, mais une très belle exposition à la MDA. Magnifique, c'est difficile de le dire, de dire ça parce que c'est un sujet difficile.
Magnifique dans le sens effectivement où les affiches présentées, en fait, c'est une série d'affiches qui a été réalisée par des élèves de l'ESAT de Roubaix, donc sur le thème des violences. Oui. Il y en a qui sont vraiment très belles, oui, magnifiques, c'est le mot. Et donc on avait couplé cette exposition d'affiches avec une autre exposition qui elle avait été réalisée par la LDH de Roubaix, avec des coupures de presse sur des violences, donc la Voix du Nord, etc., sur des sujets vraiment proches hein, pour les gens qui habitent Tourcoing, qui habitent Roubaix, qui lisent ces articles et qui se disent « Ah mais oui, je connais, oui, effectivement, c'est dans mon quartier. » Donc on avait appelé ça la violence conjugale, c'est arrivé près de chez vous, ça arrive près de chez vous, je ne sais plus comment on avait formulé l'intitulé du Café des droits de l'homme. Et effectivement, il y a eu cette exposition-là, on a eu en même temps une exposition sur les chemins des grandes dames. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et sur la question, est-ce qu'il y a plus de plaintes maintenant qu'il n'y en avait avant? D'après Véronique DeVos, donc, qui est la personne référente du service d'aide aux victimes de la Maison de la Justice et du droit de Tourcoing, Véronique DeVos qui animait notre Café des droits de l'homme, elle travaille là-dessus depuis 83, si je ne m'abuse, et pour elle, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas plus de dépôt de plainte, il n'y a pas une modification du profil des victimes comme des agresseurs, on va dire.
Non, tout à fait, oui. Hein,
non, apparemment, les choses n'ont pas vraiment évolué depuis presque 30 ans qu'elle s'occupe de ce sujet à Tourcoing.
Donc, quand vous dites que la situation n'a pas évolué, est-ce que si on remonte dans l'histoire, notamment de France, mais aussi si on voit ça dans notre civilisation globalement, ou peut-être dans d'autres civilisations, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis tout le temps?
Oh, je pense que la violence sur les femmes a toujours existé. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il est facile de savoir combien de téléphones portables ont été volés sur une année, parce que les gens vont aller facilement porter plainte. Maintenant, quand il s'agit d'aller porter plainte, il faut quand même savoir que, par exemple, dans le cas des viols, 80% des viols, c'est quelqu'un de l'entourage qui est la personne qui a fait le viol. Donc, c'est difficile d'aller porter plainte. Je pense que les chiffres de 50 000 viols par an, par exemple, sont bien en deçà, certainement, de la réalité. Mais...
Oui, je pense effectivement, historiquement, bon, je dirais que c'est malheureusement dans la nature humaine. Et je ne sais pas si c'était pire avant, franchement, je ne peux pas dire, mais de toute façon, la femme a toujours été considérée, et continue, malgré quand même certains progrès, à être considérée comme inférieure à l'homme, entre guillemets, un petit peu quelqu'un avec qui on peut faire ce qu'on veut. Hein, et ça, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué, mais bon.
Là où ça a pu évoluer dans le mauvais sens, enfin là où on a vraiment, c'est au niveau des guerres. Hein. La Ligue des droits de l'homme de Tourcoing avait fait un film débat pendant la semaine contre les violences faites aux femmes, avec le film débat.
Oui, viol, arme de guerre en Bosnie de Sabina Subasic et Fabrice Gardel. Et donc c'était Nanou Rousseau hein, qui était présidente, enfin, qui est présidente des Mères pour la paix. Qui animait ce débat parce qu'elle connaît bien le problème. Et effectivement, le viol, donc en dehors, là on n'est plus effectivement, on est dans l'international, en dehors des violences conjugales, le viol est devenu une arme de guerre effectivement en Bosnie, parce que bon là c'était le film. Oui. Au Congo, c'est la même chose. Au Rwanda, ça a été la même chose. Enfin dans des tas de pays, effectivement, c'est devenu une arme de guerre. Et évidemment, ce sont les femmes qui en sont les victimes.
Donc c'est pas tout à fait réjouissant, hein. Votre tableau décrit quand même une situation qui empire et dont les femmes sont les victimes, peut-être aussi certains hommes hein, dans l'autre sens. Est-ce que vous avez aussi des cas d'hommes qui sont maltraités, on va dire ?
Oui, ça arrive. Alors c'est assez, enfin toujours d'après Véronique Devos hein, qui traite ces problèmes-là depuis une trentaine d'années, il y en a moins. Alors, est-ce qu'il y en a moins parce que les hommes n'osent pas porter, osent peut-être encore moins porter plainte que les femmes, parce que question de standing, d'honneur, je ne sais pas. Mais il y en a, effectivement, ça existe aussi dans l'autre sens.
Alors, c'est vrai qu'on a plus souvent, en fait, des hommes qui, étant homosexuels, vont subir des violences et qui vont plus facilement, certainement, porter plainte, enfin, plus facilement que peut-être un homme qui serait hétérosexuel. On a souvent, voilà, des cas, en fait, d'homophobie. Ça, on en a de plus en plus aussi. Et les hommes, oui, subissent des violences, hein, subissent des viols hein, et même des tournantes. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que oui. Et c'est encore plus difficile, je pense. Encore plus pour eux, je pense aussi d'aller, de passer l'acte et d'aller porter plainte.
Juste un peu trop de maquillage. Toujours. Bien compris le message et encore.
Alors, on a vu Guy Fournier dans ces différents exemples des violences qui sont faites dans le domaine privé, on va dire, et des violences qui sont presque institutionnalisées.
Oui.
Si on rappelle la loi, comment elle protège les gens, notamment en France ? Est-ce que ce sont les mêmes lois en Europe ? Et comment ça évolue ? Est-ce qu'il y a au niveau international une garantie sur les droits de l'homme qui se développent ?
Alors, au niveau international, ça, je peux pas vous dire. Si au niveau des viols, enfin, du viol en tant qu'arme de guerre, effectivement, il y a eu des résolutions de l'ONU qui ont été prises, j'ai plus exactement les références en tête, qui ont été prises pour protéger les femmes et les enfants. Hein, pour qu'il y ait vraiment une prise en compte des problèmes de violence envers les civils et surtout les femmes et les enfants. Au niveau national, la législation a beaucoup évolué et depuis vraiment très récemment, puisque maintenant on parle de violence conjugale. Enfin, la loi est la même lorsqu'il s'agit d'un ancien compagnon ou même simplement d'un ami ou d'un amant ou une petite amie. Ou, enfin bref, et la loi est la même. On considère que la loi est exactement la même que si c'est le mari. Et ça, c'est tout à fait récent. Je crois que l'ordonnance est parue le 1er octobre 2010.
Dans le code civil, oui.
Dans le code civil. Oui. Et donc, avant, on était dans le civil, on est de plus en plus dans le pénal.
Donc, ces lois, elles existent. Est-ce qu'elles sont appliquées et qu'est-ce qu'il manquerait pour qu'elles soient davantage appliquées ?
Dès que les victimes portent plainte, les lois sont appliquées. Mais il faut encore qu'elles arrivent jusqu'à passer le pas et aller porter plainte. Après, il faut prouver aussi. Il y a la preuve. Au pénal, il faut une preuve. Et c'est pas toujours évident de pouvoir avoir des témoignages, avoir des... Souvent, une femme qui, par exemple, va être violée, va-t-elle tout de suite aller à l'hôpital pour se faire examiner, pour pouvoir avoir des preuves de son viol? Donc, il y a tout ça. Oui, je pense que les lois sont appliquées, mais il faut qu'il y ait un dépôt de plainte.
Lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, il n'y a pas que le viol. Hein. Il n'y a pas que le viol, il n'y a pas que les coups. Généralement, ça commence par les violences psychologiques, Véronique Devos encore en a parlé l'autre jour, nous donner des exemples concrets, le mari qui va dire à sa femme, t'as pas mis de sel, non, t'as pas mis assez de sel, t'es pas capable de faire à bouffer, vraiment ce genre de choses, des contraintes de violence, enfin, des contraintes sexuelles aussi, sans forcément que ce soit un viol, puisque entre époux, est-ce qu'on peut vraiment
le viol
mais comment le prouver
dans le couple, oui c'est ça, il faut le prouver.
Oui. Prouver les violences psychologiques, dire voilà il m'a insulté parce que j'avais pas mis la table ou etc, sont des choses qu'on peut pas prouver. Donc effectivement il y a les cas extrêmes où on en arrive au coup. Là effectivement il y a des choses concrètes, on peut faire constater par un médecin, mais les violences psychologiques c'est complètement impossible. Et généralement hein, d'après les spécialistes ça commence par là. Ça commence par là et malheureusement, ça ne s'arrête pas toujours là.
Mais disons que souvent, ça commence par on isole la femme de ses amis, de sa famille, et puis après, il y a un dénigrement de tout ce qu'elle fait. Donc, elle finit par perdre pied et à se demander si c'est une femme, enfin, si c'est une bonne mère de famille, si c'est une bonne épouse. Donc, elle finit par perdre confiance en elle. Et puis après, au fur et à mesure, la violence s'installe, la violence psychologique, et puis après, la violence physique.
La femme considère que de toute façon, c'est de sa faute. Donc, quelque part, elle n'ose pas porter plainte parce qu'elle se considère comme responsable de ce qui lui arrive.
Et quand on suit une victime, souvent, elle fait 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière parce qu'il y a la pression familiale aussi. Elle se demande aussi ses enfants, ce qu'ils vont devenir. Donc, c'est un long processus, en fait.
Un petit verre de vin et hop, il te tape. Paraît qu'on voit un peu le haut de tes seins, alors il te tape. Magne-toi, j'ai la dalle, putain, dit-il et il te tape.
Alors, la vie de couple n'est pas toujours facile. Il y a parfois, je veux dire souvent, mais parfois des tensions qui ne sont pas forcément dues au couple lui-même. Ça peut être aussi des effets extérieurs, de causes extérieures de la société qui renvoient une forme de violence qui se traduit après dans un comportement peut-être dans la maison, dans l'intérieur familial. Il y a peut-être une part de naturel entre les échanges un peu exacerbés entre des personnes qui, à un moment donné, sont en difficulté de vivre ensemble, et cette violence dont vous parlez qui mériterait d'être déclarée en tant que plainte.
Il y a une définition assez intéressante. C'est pas lors d'une dispute conjugale qu'il y a, on peut dire qu'il y a violence conjugale, c'est quand vraiment il y a un déséquilibre. Et je trouvais qu'il y avait une bonne définition. Et je crois, Guy, que tu l'as sous les yeux.
Oui, donc la violence conjugale, c'est une maltraitance qui se produit dans l'intimité d'une relation de couple entre partenaires ou ex-partenaires vivant ou non ensemble et qui s'inscrit dans un rapport de force et de domination. De manière répétitive et souvent en s'aggravant, elle s'exerce sous forme d'insultes, d'humiliations, d'isolement, de pression économique et psychologique, d'agression physique ou sexuelle. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas, que les coups, hein. Effectivement, si on parle de violence, il y a une très très grosse partie de violence psychologique.
Là, on est effectivement dans le cas de violences continues qui sont difficiles à stopper. C'est un fait endémique presque.
Ouais, tout à fait.
Donc là, face à cela, bien sûr, on peut déposer plainte quand les cas sont vraiment faciles à présenter. On peut aussi demander des conseils pour le reste des cas. Ouais. Quand on dépose une plainte, ça se passe où et comment on est accueilli?
Alors, nous, on fait une permanence téléphonique au sein de Niput Ni Soumise, donc on est amené à avoir des victimes qui nous appellent. Donc nous, on a plutôt un rôle au sein du comité de Tourcoing, vu qu'on est un comité local. On a un rôle de grand frère et de grande sœur. On accompagne les victimes vers les associations, vers les services sociaux qui vont avec la situation. Et il nous est arrivé de les accompagner, notamment pour porter plainte au commissariat. Et c'est vrai que les choses vont évoluer dans le bon sens. Il y a un meilleur accueil des victimes au sein des commissariats, notamment au commissariat de Tourcoing. Il y a une psychologue qui est patente, qui prend à part les victimes et qui les aide. Mais il reste encore trop souvent, quand la femme arrive dans un commissariat ou dans une gendarmerie, elle a le sentiment de ne pas être prise comme une victime. Elle a l'impression qu'il va falloir qu'elle se justifie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à vivre.
Donc quand cette plainte est déposée, est-ce que votre association est présente hein, ou est-ce que la personne vient de façon isolée?
Alors, quand il s'agit de victime qui s'est adressée à nous, on va l'accompagner si elle le désire. Des fois, elle a envie de faire sa démarche toute seule. Si elle désire qu'on l'accompagne, on l'accompagne en tant qu'amie. On n'assiste évidemment pas à tout ce qui est dépôt de plainte, puisque ça doit se faire entre l'officier de police judiciaire et la victime. Mais par contre, elle sait qu'on est là, qu'on l'attend à l'accueil. On ne va pas nécessairement dire d'ailleurs au commissariat qu'on est de l'association Ni Pute Ni Soumise. On est là qu'en tant qu'amie et dans la plupart des cas, ça se passe bien.
Est-ce qu'il y a encore une différence entre la plainte et puis la main courante? Ça existe encore? On fait encore comme ça dans les commissariats?
C'est rare. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de victimes qui ont eu une main courante. Mmh. C'est souvent une plainte si on veut que les choses aillent plus loin. Donc, main courante, vaut mieux une plainte, effectivement.
Mmh. Il y a une chose très intéressante à Tourcoing. Là c'est unique en France de ce point de vue-là. Il y a un service d'aide aux victimes qui dépend de la maison de la justice et du droit, et c'est le seul service d'aide aux victimes qui soit municipal. Parce que dans beaucoup de grandes villes, ces services existent, mais ce sont des associations qui s'en occupent. Alors que là, il y a vraiment des permanents à temps plein qui peuvent donner tout leur temps, tout le temps nécessaire aux victimes. Et donc, effectivement, ils travaillent beaucoup sur la communication. Hein. Ils ont édité des plaquettes, donc qui sont disponibles dans les centres de
les services sociaux,
le CCAS, la sécurité sociale, etc., la CAF et compagnie. Et donc il y a un vrai service, donc d'accompagnement, hein, donc d'écoute, d'accompagnement également pour porter plainte si c'est nécessaire, ou voir avec les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent là-bas et qui disent, voilà, je suis victime de ceci, de cela, et je ne veux pas porter plainte, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Donc ils reçoivent également parfois l'auteur des violences, hein, ils essayent d'instaurer un dialogue avec lui. Donc il y a vraiment un accompagnement très fort qui se fait dans ce type d'association, enfin ce type de service, en l'occurrence ici municipal.
Tu refuses ces avances graveleuses, alors tu te plains sur ton triste sort. Ils ne te croiront pas, il leur paraît si cool, si rigolo. Et lui, il se vengera aussitôt.
Donc Stéphanie Rameau, on l'a compris, il existe des structures et des personnels qualifiés qui sont professionnels de ce type de sujet. En tant que militante bénévole de votre association, qu'est-ce que vous apportez de différent? Est-ce que la relation, je vais dire presque amicale, avec la personne que vous accueillez a une importance?
Alors, une relation amicale, c'est difficile, je pense que c'est surtout une relation de confiance, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va pouvoir venir nous voir et nous raconter ce qui s'est passé. Des fois, on a des personnes qui vont être en situation irrégulière, mais vu qu'elles sont victimes, elles vont être protégées par le droit français. Et donc, des fois, elles n'osent pas. Il y a aussi un problème de pression religieuse, de pression sociale, et elles savent qu'en venant nous voir, il n'y aura pas ce problème-là. Nous, sur Tourcoing, vu qu'on a un comité local, on n'a pas une plateforme, par exemple, comme Ni Pute Ni Soumise Paris, où il y a une plateforme avec un psychologue, une avocate, un juriste. Nous, on est plutôt là vraiment pour accompagner les victimes vers les services compétents pour leur situation ou vers les associations compétentes. On travaille en partenariat, donc effectivement, avec la ville de Tourcoing et leur service qui est vraiment épatant. D'ailleurs, on a régulièrement des réunions avec elles et avec d'autres associations pour que la plaquette ait été mise en place, en l'occurrence avec toutes les associations et les services municipaux. Et donc, on accompagne surtout les victimes. C'est vraiment une relation de confiance. Et si jamais la victime retournait, par exemple, avec le mari qui bat ou on va pas juger, on reprendra contact avec elle pour prendre de ses nouvelles. Si elle veut revenir, elle reviendra. Si une femme qui a été victime de viol n'a pas envie de porter plainte, ben elle sait qu'elle pourra toujours avoir du soutien auprès de nous et elle pourra revenir peut-être dans 10 ans où elle sait qu'il y aura toujours une écoute.
Vous parliez de religion, comment la religion intervient comme facteur empêchant éventuellement une démarche?
Alors c'est un peu délicat d'aborder, c'est vrai, sans polémique aucune, il y a des religions, enfin, quelle que soit la religion, je dirais les religions en l'occurrence, quand elle est imprégnée dans la vie familiale, on pense aux enfants, on a un devoir de mère, on a et c'est vrai que quand on est victime souvent de violences conjugales d'ailleurs, c'est difficile d'aller voir quelqu'un, enfin d'aller vers une association pour dire je suis victime de violences conjugales. Donc je sais pas trop comment l'expliquer en fait, cette pression.
Je pense effectivement ce que tu disais, c'est une pression presque, c'est pas forcément une pression de l'autre sur soi, c'est une pression qu'on s'inflige à soi-même. Je veux dire, un catholique intégriste, une femme qui serait catholique intégriste, mettrait entre parenthèses sa personne parce qu'elle doit être une bonne mère, elle doit être une bonne épouse, elle a juré, ce serait jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu une... des menottes qu'on se met à soi-même pour des questions de morale. C'est pas forcément, effectivement, ça peut être aussi parce que la femme est inférieure, la femme doit pas chercher 3 pas derrière, etc., ce genre de choses. Hein, mais effectivement, dans toutes les religions, à partir du moment où le religieux a pris le pas sur l'humain, hein, il peut y avoir effectivement des dénis, hein, parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas de raison de porter plainte, ce qui m'arrive, c'est normal.
Et quand il y a une religion, enfin quand la religion est vraiment très présente dans la vie de ces femmes, souvent ces femmes-là, ben ne travaillent pas, n'ont peut-être pas accès à leur chéquier, leur carte bancaire. Partir de chez elles, c'est très difficile. Elles ont peut-être même pas le livret de famille. Elles ont donc partir sans rien, c'est très difficile.
Oui, les intégristes catholiques à Tourcoing n'ont pas forcément tendance à être en nombre très très important. D'autres religions peuvent
oui,
aussi comporter des personnes qui les pratiquent d'une manière quand même
abusive.
Mmh. Hein.
Oui, tout à fait.
On retrouve aussi cet abus dans d'autres pays. Hein. On peut parler par exemple de l'affaire de Sakineh.
Oui, tout à fait. Bon, pour rappel, hein, Sakineh qui a été condamné à mort en Iran pour meurtre. D'autres disent pour adultère. Donc elle a été condamnée à mort. Alors il y a beaucoup de polémiques hein, sur sa condamnation à mort, puisque on a beaucoup parlé de lapidation. D'aucuns disent que la lapidation n'existe plus en Iran depuis très longtemps. Enfin quoi qu'il en soit, c'est une femme qui était condamnée à mort. On s'est mobilisé sur Tourcoing il y a quelque temps. Un moment où sa mise à mort a priori était imminente, hein, on a organisé un sit-in devant l'hôtel de ville avec le soutien de pas mal d'élus de Tourcoing, avec la venue de la présidente nationale de Ni Pute Ni Soumise, hein, Siem Apchi. Et puis suite à ça, la LDH a écrit, a envoyé un courrier à l'ambassadeur d'Iran en France en demandant à ce que la mise à mort de Sakineh, quelle que soit la façon dont ça se déroulerait, soit annulée, quoi, hein, pour des raisons humanitaires, pour des raisons de droits de l'homme, en faisant appel au bon sens et à l'humanisme des Iraniens.
Alors, cette condamnation à mort, elle intervient dans le cadre d'un environnement, de la justice de ce pays, en fonction de textes ou par rapport à des pratiques religieuses.
Alors en fait, cette Sakineh a d'abord été condamnée à 90 coups de bâton, 99 coups de bâton pour adultère. Donc elle a reçu ses coups de bâton pour adultère et normalement, on ne peut pas être condamné une deuxième fois pour un même fait. Donc Sakineh après avait été accusée d'être complice du meurtre de son mari et lors du procès, elle avait été acquittée. Voilà, et la personne qui avait le meurtrier de son mari avait été condamné. Et puis ensuite, il a été gracié puisque la famille lui avait pardonné. Et son dossier est passé de juge en juge parce que certains disaient qu'elle n'avait pas suffisamment été punie et que 99 coups de bâton n'étaient pas suffisants. Et c'est comme ça qu'elle a été condamnée pour lapidation, pour adultère. Or, dans le droit iranien, on ne peut pas être condamné une deuxième fois pour un même fait. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde nous dit qu'il y a des fois, il y a ingérence dans un pays. Mais là, en l'occurrence, on lui a bafoué ses droits. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en prison. Et c'est vrai que la lapidation, du coup, devait être transformée en pendaison.
Donc, ces pratiques de certains pays, est-ce qu'on les retrouve dans d'autres? Est-ce qu'ils ont un effet contagieux?
Moi, je pense effectivement dans tous les pays où on applique une loi, notamment coranique, hein, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui sortent parce que c'est un pays qui est très fermé, mais on sait que ce genre de choses arrive. En Algérie, il suffit de voir, c'est pas des femmes, mais il suffit de voir qu'il y a des jeunes qui ont été condamnés là, récemment, enfin lors du dernier Ramadan, parce qu'ils avaient osé manger pendant le Ramadan. La pression religieuse est très forte, effectivement. Les femmes font voile et qu'on interdit de sortir, qu'on interdit de conduire, qu'on interdit d'écouter de la musique, etc. Forcément, sont les premières victimes de ce genre de gouvernement.
On a pas mal de femmes qui essayent justement dans certains pays de pouvoir enlever leur niqab ou leur burqa et elles le payent de leur vie en fait. Hein. Donc c'est vrai que la pression est assez forte et il est très difficile pour ces femmes de gagner une certaine liberté.
Donc, je reviens à ma question, est-ce que ça a tendance à s'étendre ou est-ce que ça a tendance à se résoudre, j'allais dire, par justement la pression de mouvements internationaux qui luttent pour les droits de l'homme, justement?
C'est difficile à dire. C'est vrai qu'on agit, au niveau de l'LDH, on fait beaucoup, on essaye beaucoup de faire de la pédagogie, de faire de la communication. Nous, on n'a pas ces services comme propose Ni Pute Ni Soumise d'accompagnement, etc. Par contre, on communique beaucoup sur la question. On a eu cette semaine contre les violences faites aux femmes avec des expositions, un café des droits de l'homme, projection débat, etc. Au niveau national, ça se fait très régulièrement dans toutes les sections. Mais par contre, on n'a pas de retour, mais on compte effectivement sur cette communication pour faire avancer les choses. Il se trouve que cette journée contre les violences faites aux femmes qui a été mise en place par les Nations Unies il y a quelques années, donc il y a lieu tous les ans le 25 novembre, c'est l'occasion à chaque fois de communiquer et peut-être de faire évoluer les mentalités. Maintenant, concrètement, est-ce que ça porte ses fruits? J'avoue que... On peut pas quantifier.
Nous, on avait innové cette année au niveau de Ni Pute Ni Soumise sur la France en disant que c'était la journée de la jupe, hein, le symbole d'une émancipation de la femme dans certains quartiers, parce que porter une jupe devient difficile parfois. Et à cette occasion, au Palais de Tokyo avait été vendu aux enchères des jupes de stars et l'intégralité des sommes recueillies à la suite de ces enchères ont été pour des appartements relais pour les femmes qui sont en difficulté et qui ont subi des violences.
Donc, est-ce que vous jugez que dans les médias, on traite suffisamment ce type de problème?
Moi, je suis enseignant en lycée professionnel, sur Tourcoing, lycée tertiaire, dans lequel il y a une majorité de filles. Et moi, j'assiste, je dirais, quasi quotidiennement, effectivement, à des... c'était pas vraiment des agressions, mais à des remarques sexistes, hein, de la part des garçons face aux filles de l'établissement. Donc ça commence très jeune et je pense que ça commence aussi dès l'école primaire. Hein. Et donc effectivement, je pense que c'est à cet âge-là qu'il faut communiquer. On n'en fait jamais trop, à mon avis.
C'est vrai que la communication, je pense que c'est important. Il faut savoir que notre comité de Ni Pute Ni Soumise à Tourcoing a été créé suite à l'intervention de Ni Pute Ni Soumise au lycée Marie-Noël. Et c'est sous l'impulsion de jeunes filles, hein, qui ont aimé cette intervention que le comité a été créé. Donc nous encore, on fait encore des interventions sur demande. Des fois, des lycées ou des collèges nous appellent pour nous demander d'intervenir. Donc on a une mallette dite pédagogique où on peut aborder tous les sujets, le respect, la mixité, puisqu'on œuvre dans ce sens-là, la mixité, l'égalité, la fraternité, le mieux vivre ensemble. Et oui, nous aussi, on pense qu'en la vertu de la prévention et de pouvoir aller vers ces jeunes, hein, pour leur expliquer.
D'ailleurs, cette année, la LDH organise tous les ans les écrits pour la fraternité, donc qui s'adressent aux écoles sur un thème en particulier. Le thème choisi cette année, c'est l'égalité filles-garçons. Et donc, c'est encore une fois l'occasion d'en parler, effectivement, en invitant les élèves, les classes à participer pour... des dessins, des poésies, des histoires, etc. Et donc c'est au niveau national. Hein. Donc nous on lance ça sur Tourcoing, sur l'ensemble des collèges, lycées et écoles de Tourcoing. Et ben on espère que ça, ça va bien fonctionner parce que c'est un sujet important.
Voilà, et bien Guy Fournier et Stéphanie Rameau, merci de nous avoir présenté ce sujet et puis bonne chance pour votre combat. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Tu l'avais trouvé si doux, si touchant, et toujours